Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, je reçois Jérémy Moreau qui, après avoir obtenu avec son précédent album La Saga de Grimm le prix du meilleur album, Le Fauve d'Or, au Festival d'Angoulême en 2018, revient avec un autre conte philosophique sur notre rapport à la grande nature. Un récit qui se déroule dans des temps préhistoriques. Pense et les plis du monde. Tel est le titre de ce bel album publié chez Delcourt, un coup de cœur partagé avec Sonia Deschamps du magazine Casemate qui nous rejoindra en fin d'émission. Le réveil culturel, c'est tous les jours très tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast ou l'écoute en ligne de ce rendez-vous quotidien de l'actualité de la culture pop, émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Olivier Dupré.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Jérémy Moreau.
Bonjour.
Et merci d'être venu de Valence pour cette émission. Alors, Pense et les plis du monde, donc c'est Pense avec deux S à la fin. C'est le nom de votre héros de cette nouvelle aventure, un récit de près de 200 pages qui se passe dans la préhistoire, donc à l'âge où les hommes chassaient le mammouth pour nourrir leur clan et se réfugier dans des grottes, la saison des grands blancs. Alors, mais notre héros n'est pas comme tout le monde. Face à la nature, ses mystères et ses déchaînements, le jeune Pense ne veut pas survivre en chassant, mais vivre en intelligence avec la nature.
Oui, exactement. Il n'arrive pas à chasser, ou il ne veut pas plutôt, il passe ses journées à contempler les plis de la rivière, à regarder les nuages, à observer les montagnes, et jusqu'au jour où il devient un peu indésiré dans son clan.
Elle est productive pour, aux yeux de son clan.
Eh bien, complètement. Un pestiféré, il se retrouve rejeté par son clan. Et donc là, il faut bien qu'il trouve un moyen de survivre pour la première fois. Et tout ce qu'il a observé dans la nature va lui servir à peut-être trouver comment survivre par un nouveau biais.
Alors, vous racontez cette initiation à la nature à travers votre personnage, Pense, comme si ce jeune homme était le premier homme à avoir observé la nature pour mieux vivre en harmonie avec elle. C'est pour ça que vous avez inscrit ce récit dans la préhistoire ?
Oui, ça m'intéressait de retrouver cette espèce d'émerveillement pur et vierge, en fait, regarder la nature comme on l'a peut-être regardé quand on était enfant ou même pas, puisque finalement quand on est enfant déjà il y a des gens qui nous expliquent comment fonctionnent les arbres. Retrouver un espèce d'émerveillement pur, primitif. Qu'est-ce que c'est de se retrouver face à un arbre, face à une montagne, quand on ne sait...
Et comment ça pousse un arbre, et d'où ça vient tout ça,
et on ne sait même pas que ça pousse, puisque finalement c'est ça qui reproche aux gens de son clan, qui sont des nomades, qui passent leur temps à courir. Ils ne s'arrêtent pas pour observer la nature, et donc ils ne savent même pas que les arbres poussent, en fait. Et donc lui, par le temps qu'il prend pour s'arrêter, pour observer la nature, finalement il développe une espèce de conscience raisonnée, il commence à comprendre quelques logiques. Il est le premier à voir que finalement, en observant une plante pendant une semaine, elle avance, c'est un petit bout de lierre qui avance. Et donc là, de fil en aiguille, il arrive à découvrir l'idée de germe, en fait, dans la nature. Comment la nature se déplie.
Et pas seulement ça, parce que très vite va venir cette idée d'une forêt nourricière. Pense parle de forêt nourricière très vite en disant « ça va nous permettre de survivre sans passer par la chasse ». Alors, pensez bien, Jérémy Moreau, que ce conte a bien des résonances avec quelques-unes de nos inquiétudes légitimes actuelles, notre rapport à la Terre.
Oui, oui, complètement. Et du coup, cette idée, il l'a en observant des fourmis qui ramènent des petits grains de buis dans leur fourmilière. Et il se dit, c'est quand même merveilleux, ils ont ces buis immenses par rapport à la taille d'une fourmi. Ce serait incroyable de pouvoir, nous aussi, avoir des arbres qui abriteraient des fruits énormes, gros comme des chevaux. Et donc, c'est une première idée, c'est un premier rêve qui lui vient. Et finalement, il va vivre un traumatisme terrible avec sa mère. Il est au bord de la mort pendant un hiver terrible. Et finalement, lui qui contemplait la nature va se retourner contre elle. Et il va se souvenir donc de ce rêve, de ce champ nourricier. Et d'ailleurs, j'emploie pas le mot champ, je dis juste terre, puisque le mot champ implique trop ce que c'est déjà. Et là, il va essayer, alors, il y a une scène avec des champignons hallucinogènes, parce qu'il faut qu'il comprenne comment le germe se déploie, comment... Alors tout ça, c'était très compliqué à écrire, parce que comment rendre ça...
En tout cas, c'est bien rendu graphiquement. On est dans la tête de Pense, y compris quand il gobe des champignons hallucinogènes.
Oui. Et l'idée, c'était d'arriver à rendre ça crédible. Donc il se dit, comment je peux déplacer un arbre? Parce qu'au début, il se dit, comment je vais faire cette terre nourricière? Il faut que je ramène les arbres. Donc il part de la base, et puis finalement, il comprend que les arbres font des œufs. C'est enfin, ce qu'il croit être des œufs. Donc il tâtonne, et il finit par arriver à faire une espèce de petit bout de champ qui va plus ou moins fonctionner.
Voilà, et puis il rêve d'une forêt qui donnera des fruits, des légumes à tout le monde, quoi.
C'est ça, il a des rêves de rivières, de légumes et tout ça, de résoudre la faim dans le monde. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Tout n'est pas si facile.
Alors, vous avez parlé justement de ce moment tragique, dramatique entre Pense et sa mère. C'est même, vous avez utilisé le terme de traumatique. C'est vraiment le mot qui fout. Il va perdre sa mère dans des conditions incroyables.
Est-ce qu'on le dit?
Vous vous êtes arrangé pour que cette scène, qui est très violente, devienne poétique, philosophique, Jérémy Moreau. Est-ce qu'on peut raconter cette scène? Bah oui, parce que c'est une scène très importante dans l'évolution de votre personnage. Il va perdre sa mère. Et pas seulement.
Il se retrouve rejeté du clan, il se retrouve dans une petite vallée perdue parce qu'ils ont perdu le clan. Ils doivent survivre l'hiver dans une grotte. Et ils n'ont rien à manger. Et donc là, sa mère lui dit, si tu veux survivre... Qu'est-ce que tu vois que tu peux manger dans cette grotte? Eh ben moi, je vais te donner mon corps, je vais continuer à vivre en toi, mes pensées continueront de vivre en toi.
Ouais, c'est...
Et donc, mange-moi, je t'en supplie, promets-moi que tu me mangeras pour survivre.
Et elle lui dit, ce n'est pas une offrande que je te fais, c'est une requête. Je ne veux pas aller à la terre, je veux continuer à vivre en toi, tu n'en seras que plus fort. Mange mon cerveau et mes pensées seront tiennes. Je veux que tu manges ces mains qui ont tant dépecé d'animaux, ces jambes qui m'ont donné à voir tant de terre, ce ventre qu'il te nourrisse aussi longtemps qu'il m'a nourri, moi. Je veux que tu doubles ton cœur du mien et qu'il batte à l'unisson pour les âges à venir. C'est le moment le plus dur de cette histoire, parce qu'on sent que la mère est en train de mourir, et elle demande, elle supplie son fils de faire cette chose horrible, c'est-à-dire de manger sa mère. Pourtant, c'est dit d'une manière... subtile, intelligente.
Oui, bah il fallait donner envie de qu'elle soit mangée. C'est surtout il fallait un moment dans l'histoire fort pour lancer l'aventure en fait. C'est de là va naître le traumatisme et de là va naître son envie d'affronter cette nature. Puisque jusque-là, il la vénérait peut-être plus que les hommes, il trouve les montagnes plus belles et là tout d'un coup, il se retrouve donc à manger sa mère puisque du coup dans la scène suivante là aussi, ça n'a pas été facile. Il ne va pas la manger comme ça. C'est des forces intéressées. Il va avoir tellement faim qu'il y a un moment donné où c'est la survie qui va le pousser à la manger. Oui, c'était un moment très important parce que c'est ce qui lance l'histoire. Et donc, je voulais garder ce moment très poétique où il hésite. Évidemment, il ne va pas se jeter sur elle pour la dévorer. Mais il va hésiter. C'est la survie qui va le pousser à la dévorer.
Et en quoi cet événement va être un événement fondateur dans ce qu'il va faire plus tard, Pense?
C'est le moment de bascule où, en fait, il cesse de voir la nature comme quelque chose à contempler, comme quelque chose de beau. Et il se dit, mais cette nature, elle laisse vraiment faire des choses comme ça. Il y a des choses aussi terribles qui sont permises dans ce monde. Et donc, il se retourne contre elle. Et c'est à partir de là qu'il va se dire, eh bien, je vais la tordre, cette nature. Je vais la plier à mes désirs. Je vais la contraindre et je vais lui arracher les fruits et tout ça. Et en philosophie, Descartes dit que c'est le moment où nous nous sommes fait maîtres et possesseurs de la nature. Donc, c'est ce point de bascule entre la vénération et tout d'un coup, il veut la tordre, la maîtriser, lui extirper ce dont il a besoin pour survivre.
Et lui qui a été obligé de faire ce qu'il a fait, il va décider de ne plus manger de viande aussi. C'est le premier végétarien de l'humanité, Pense.
C'est le premier plein de choses. Voilà. Premier philosophe, premier scientifique.
Et votre double, même s'il vit dans des temps lointains et préhistoriques?
Ah, oh non, non.
Vous n'avez pas le même rapport?
Je serais incapable d'inventer l'agriculture. D'ailleurs, c'était un petit peu le problème du livre. Je ne me sentais pas forcément légitime de parler de ça, puisque je suis très nul. Hein. Toutes mes plantes crèvent à la maison.
Mais êtes-vous végétarien, comme Pense?
Je mange de la viande au restaurant, mais pas chez moi. Je n'achète pas de viande en supermarché, en tout cas.
Le réveil culturel.
Personnage de votre aventure, de cette dernière histoire, c'est Cré, celle qui parle aux esprits.
Oui, donc c'est la jeune fille qu'il va rencontrer. Donc il a son projet de chant. Et en fait, il ne pourrait pas arriver à faire ce projet-là, puisque ça demande trop de main-d'œuvre. Et dès l'hiver suivant, en fait, le champ est recouvert de neige. Et il va rencontrer un nouveau clan qui va passer l'hiver avec lui. Un clan qui est à la déroute. Qui est en train de mourir à petit feu et qui va s'accrocher à son rêve. Et parmi ce clan, il y a une jeune chamane qui s'appelle Cré et qui va plus ou moins s'en amourer. C'est l'histoire d'amour de votre histoire. Elle aussi est quelque part un petit peu une marginale, c'est une espèce de junkie de la préhistoire. Elle prend des graines sacrées pour voir les esprits dans le ciel. Pense lui dit qu'il voit les plis du monde dans la terre. Elle voit comme un espèce de grand orage de plis comme des éclairs dans le ciel. Donc il se retrouve assez bien là-dessus. Ouais. Et il se retrouve dans une scène là aussi. Ben, j'essaie de créer des scènes un peu poétiques. Donc il se retrouve dans une petite partie de la grotte à concrétion. Et où, du coup, ils vont faire l'acte créateur.
Ils vont aussi s'aimer. Mais c'est un mariage de la raison et de la spiritualité. C'est la rencontre de celui qui observe ce qui l'entoure et de celle qui croit à ce qui nous dépasse.
C'est ça. C'est un peu Platon et Socrate qui se retrouvent dans le même lit. Platon, donc le ciel des idées, ça serait plutôt Cré. Et puis celui qui regarde la terre pense.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible. Porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme, portée par l'allégresse et la douceur de vivre. L'été qui commence, la rumeur de Paris, comme une symphonie, comme la mer qui balance. J'arrive au rendez-vous, dans l'épaisse fumée, le monde me bouscule. Un coin et observant de loin la foule qui ondule, mais le choc imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible. La pudeur du cœur impose le respect, la confiance sereine. Et plus tu t'ouvres à moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre. Et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres.
Jérémy Moreau est avec nous à l'occasion de la sortie de sa dernière bande dessinée éditée par Delcourt, Pense et les plis du monde. C'est le titre de cette bande dessinée où l'initiation à la vie et à la nature d'un jeune homme qui refusa et qui a toujours refusé de chasser comme le font les hommes de son clan. Il veut lui plutôt comprendre la nature pour mieux l'affronter, ensuite mieux la façonner et la détourner pour son usage. On est dans des temps préhistoriques et Pense rêve de faire pousser des forêts nourricières. Encore un héros solitaire mais avant-gardiste. Pense, il ressemble un peu à Grimm, l'orphelin plein de colère de votre précédent album, Jérémy Moreau, lui qui était inscrit dans le Moyen-Âge. Mais alors pourquoi justement vous prenez toujours une distance avec le temps pour raconter vos histoires, le Moyen-Âge, puis la préhistoire pour cette dernière bande dessinée? Pourquoi choisir cette temporalité?
Oui, c'est ce qui me vient le plus naturellement. C'est marrant parce que quand j'ai commencé la bande dessinée, Wilfried Lupano m'avait proposé Le singe de Hartley Pool et j'avais dit « Ah non, 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 c'est une bande dessinée historique, c'est pas pour moi, moi j'ai envie de traiter des sujets actuels ». Et puis en fait avec le temps, c'est l'argument classique, mais ça permet d'avoir une distance pour traiter de certains propos. Et je crois que l'époque actuelle me déprime tellement et je sais pas, j'arrive pas à trouver de biais par laquelle l'attaquer, il n'y a pas le recul de l'histoire encore pour traiter de certains sujets.
Pourtant, dans vos deux bandes dessinées, même la dernière, Pense, c'est notre rapport à la nature qui est au centre de votre propos.
Et oui, évidemment, je reviens vers des thématiques contemporaines par le truchement d'époques plus éloignées. Mais après, la préhistoire, c'est pas une époque facile non plus, c'est un peu une histoire hors du temps. J'ai eu beaucoup de peine à écrire certains passages, puisqu'on peut pas s'appuyer sur des sagas comme quand j'avais travaillé sur les sagas islandaises dans la saga de Grimr.
Grimr, ouais.
Grimr, oui, j'ai appris à le dire. On peut pas s'appuyer sur un patrimoine culturel, on peut, même pour le langage, pour faire parler mes personnages, il y a la question de.
Il y a le plaisir de dessiner quand même les mammouths.
Au niveau du dessin, mais je veux dire pour ce qui vient de l'inspiration pour créer des scènes, il y a peu d'accroches en fait. On est perdu dans la nature. Je fais une scène avec la grotte, une scène avec le mammouth, je pense que c'était un des gros défis de l'album.
Et puis aussi parler de philosophie. Ça laisse l'espace pour la philosophie. Hein. Vous citez Spinoza, Deleuze, Jérémy Moreau.
Oui, complètement. Ça correspond à un moment donné de ma vie où j'ai écouté beaucoup les cours de Gilles Deleuze à la Sorbonne et où je suis tombé sur ce fameux cours du pli. Leibniz, c'est le pli. Et ça m'a complètement fasciné, retourné le cerveau. Et je me suis mis à voir du pli partout, en fait. Donc peut-être un petit mot sur ce cher Leibniz, c'est le pli chez Deleuze. En gros, c'est une conception, c'est une vision du monde où il troque l'atome, en fait, pour expliquer la plus petite particule de la matière. Il troque l'atome contre le point, ce qu'il appelle le point d'inflexion, et donc il appelle ça le pli. Donc, il imagine que l'atome, ça s'effriterait comme du sable, et donc il faut imaginer la matière comme une immense feuille qui serait repliée à l'infini. Et ces plis infinis créeraient les roches, les rivières, les montagnes, et donc ça c'est ce qu'il appelle les plis de la matière, et après il va plus loin, il va y avoir le pli qui est traversé par une force, cette force qui est un vitalisme, et c'est ce qu'il appelle le pli organique. Et à partir de là, il crée le concept de germe, le germe et le pli organique, c'est-à-dire quelque chose qui est infiniment replié et qui se déplie, comme l'arbre. Et bon, bref, le cours est extrêmement compliqué. Après, ça part dans les plis de l'âme. Et je me suis mis à avoir du pli partout. Et finalement, ce personnage de premier philosophe était le meilleur moyen d'exploiter ce fameux cours.
Et les plis du monde.
Et les plis du monde.
D'où le titre, Pense et les plis du monde. Vous êtes aussi jeune que vos héros en papier, Jérémy Moreau, et vous avez commencé tout petit à dessiner dès l'âge de 8 ans. Vous vous inscrivez au concours de la bande dessinée scolaire d'Angoulême. D'ailleurs, vous avez même décroché en 2012 le prix du jeune talent au festival d'Angoulême. Sonia Deschamps est avec nous ce matin. Bonjour Sonia.
Bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver.
Ravie aussi.
Alors Sonia, Pense et les plis du monde n'est bien évidemment pas le premier album de notre invité, même si il est très jeune. Jérémy Moreau, vous avez quel âge? Vous avez 30 ans?
Ah, c'est le moment où on ne sait plus trop. 32.
Bon, voilà. Alors, dites-nous, quels sont les précédents livres ou albums de Jérémy Moreau à découvrir absolument?
Eh bien, écoutez, Toufik, c'est assez simple. Tous. En toute objectivité, tout simplement, tous les albums de Jérémy Moreau sont à lire. Un sans faute. Le singe de Hartlepool, c'est avec cette première bande dessinée qu'on vous a découvert, Jérémy Moreau, c'était en 2012, scénario de Wilfried Lupano.
Auteur entre autres des Vieux Fourneaux.
Et on le rappelle, hein, le singe de Hartlepool, c'est une histoire inspirée d'une légende anglaise, l'histoire d'un singe que les Anglais, durant les guerres napoléoniennes, trouvent échoué sur la côte. Comme c'est la mascotte de l'équipage, l'animal porte un uniforme tricolore et comme dans ce petit village d'Angleterre, les gens n'ont jamais vu de Français, ils vont prendre l'animal pour un Français, l'accuser d'espionnage et le juger. Et tout de suite, le charme opérait. Et parmi les lecteurs impressionnés, David Prudhomme, un auteur de bande dessinée dont vous appréciez, je crois savoir, Jérémy, beaucoup le travail. Voilà ce qu'il s'est dit en découvrant votre singe de Hartlepool, je le cite. Ronald Searle adouci, maîtrise graphique et narrative, belle caractérisation et expression des personnages, super couleur, classe, quelle maturité. Et en lisant le singe de Hartlepool, on ne remarquait pas juste que c'était une bonne bande dessinée. Déjà, on se disait, ah, ce dessinateur, il va nous impressionner.
Attention, dessinateur et auteur, puisqu'après le singe de Hartlepool, Jérémy Moreau a publié Max Winson, dont il a assuré dessin et pour la première fois donc scénario.
Dans un style graphique totalement différent, les dessins de cet album sont nourris d'influences multiples. Winsor McCay, José Muñoz, Okusai aussi. On peut également voir l'influence du manga dans le découpage, la rythmique de cet album. Max Winson, je le rappelle, c'est l'histoire de ce jeune joueur de tennis qui n'a jamais perdu de match de sa vie, qui a été complètement tyrannisé par son père qui a voulu en faire le plus grand champion de tous les temps. Et qui va devoir gagner sa liberté en perdant un match. Un album plein d'humour, de poésie sur fond de spectacle, de compétition et d'émancipation. Dans l'exposition qui vous était consacrée l'année dernière à Angoulême, vous nous refaisiez vivre les premiers instants de ce projet, Jérémy. 29 janvier 2013. Monsieur l'éditeur, c'est LE projet du siècle. Vous ne pouvez pas le rater. 300 pages, noir et blanc, sur le tennis, ça va être dingue. Risqué? Mais pas du tout. Oui, alors, j'ai encore jamais écrit de scénario de plus de 3 pages. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis un génie dans ma tête.
Comment il vous a cru?
12 avril 2013, réponse de l'éditeur. Allô Jérémy, on vient de recevoir tes premières pages. Ça va pas du tout. Hein. Ah. Tous les personnages parlent de la même façon, c'est désordonné. Je sais pas quoi te dire. Ah si, appelle Wilfried. Résultat, un album extrêmement réussi, fort et émouvant.
Donc réalisé avec les bons conseils de Wilfried Lupano. Et puis arrive la fameuse consécration, la saga de Grimm, qui vaut à l'auteur le Fauve d'or à Angoulême en 2018.
Fauve d'or à 30 ans, avec l'histoire donc de cet orphelin aux cheveux rouges qui doit beaucoup au documentaire La Soufrière d'Herzog et à La Cloche d'Islande de Laxness, entre autres. Fauve d'or, point d'orgue d'une longue histoire avec Angoulême. Toufik, vous l'avez rappelé, à partir de l'âge de 8 ans, Jérémy, vous avez participé tous les ans au concours de la bande dessinée scolaire d'Angoulême.
Encore lui, c'est toujours lui, il revient.
Vous l'avez finalement gagné, ce concours de la BD scolaire en 2005, puis gagné aussi le concours Jeune Talent en 2012. Aujourd'hui, vous publiez Pense et les plis du monde. C'est le premier album, Jérémy Moreau, dont vous n'avez pas envoyé le scénario pour avis et conseil à Wilfried Lupano. Quand je lui ai demandé le regard qu'il portait sur votre parcours, voilà ce qu'il m'a répondu. Jérémy est un des rares auteurs que je trouve totalement à sa place dans son art. Il ne pourrait pas faire autre chose, selon moi, même s'il a pu se rêver gesticulant dans un petit short blanc de tennisman professionnel. Il a cette capacité précieuse à remettre tout son art à plat à chaque nouveau projet. On ne sait jamais où il va nous emmener dans son prochain livre, ni sur le fond, ni dans la forme. Mais on a en revanche une certitude, c'est que son meilleur bouquin, ce sera le prochain. En voilà une belle promesse.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Pense et les plis du monde, la dernière bande dessinée de Jérémy Moreau, notre invité ce matin, est édité par Delcourt. Merci d'être venu de si loin, de Valence, où vous vivez depuis quelque temps, non, déjà?
Eh oui, ça fait 7-8 ans qu'on y est. Voilà. Ça passe vite.
Bon. Et c'est la vie, vous êtes entouré d'arbres et de verdure? Comme les personnages de vos bandes dessinées?
Ben, j'ai entièrement écrit l'histoire quasiment depuis un petit parc où je vais promener ma fille pour la sieste. Ça a été très salutaire pour l'écriture.
C'est vrai, parce que comme pense, vous êtes un jeune papa, Jérémy Moreau. Félicitations.
Tout à fait.
Merci Sonia Deschamps d'être passée.
Avec plaisir.
Et on se retrouve très prochainement. « On se retrouve lundi autour du dernier roman de Valentine Gobi, Muren, édité chez Actes Sud. Bon vendredi, bon week-end sur France Culture.